La deuxième partie, nous l'ouvrons tout de suite avec la séance des questions-réponses. Bon, donnée à la chemise en noir. Voilà.
RTNC 2 Développement. Ma question s'adresse à Florence Marchal. Vous avez parlé tantôt d'une progressiste, d'une retraite progressiste de certaines agences onusiennes en RDCS, une fuite en avant, un abandon ou le manque de financement, ou bien cela signifie que la RDC n'est plus une zone urgente. Merci beaucoup.
Merci pour votre question. Je crois qu'il y a un malentendu. Donc, il s'agit de la retraite de toutes les agences, fonds et programmes qui sont présents sur le territoire de la RDC, une retraite de travail, comme ça se fait dans toutes les compagnies, dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations. Et j'ai indiqué que cette retraite associait étroitement la MONUSCO, la mission de maintien de la paix, car dans le contexte du retrait progressif de la MONUSCO, lequel retrait, lui, de toute façon, figure dans les résolutions du Conseil de sécurité, mais dans le cadre de ce retrait progressif, c'est quelque chose qui se prépare à long terme, et dans le cadre de ce retrait, les agences des Nations Unies, qui étaient présentes avant la mission de maintien de la paix et qui vont rester après le départ de la mission de maintien de la paix, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la mission ne va pas partir, je parle bien d'un retrait progressif, mais tout ça se prépare, donc les agences seront encore présentes après, donc cet après se prépare aujourd'hui, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la restauration de l'autorité de l'État, accès à la justice, accès aux services sociaux de base, etc. Voilà.
Merci, on va essayer de donner la question, avec votre permission, à un journaliste qui n'a pas encore posé de question depuis le début de ses séances de conférence de presse, qui n'a jamais posé de question. Il n'y a pas de journaliste timide, hein, je crois, tous les journalistes. Aidez-moi un peu. À la porte, tout le monde a posé des questions, non? Bon, c'est toujours les mêmes, on prend. Non, donnez-lui le micro alors.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le compte Congo Opportunities Media. Je pense que je pose ma question au porte-parole militaire. En entendant ce rapport, il y a eu une information qui m'a particulièrement réjoui, c'est dire que les opérations conjointes FARDC MONUSCO ont été conduites la semaine écoulée dans les territoires ou dans la province de l'Ituri. Ma question est celle de savoir, cela montre qu'il y a eu une avancée significative dans leur rapport avec les FARDC, mais à part l'Ituri, il y a encore des opérations conjointes dans quelles localités? Est-ce que c'est de manière générale ou c'est seulement en Ituri où on peut avoir des relations, des opérations militaires conjointes FARDC MONUSCO? Merci.
Je vais laisser la parole tout à l'heure au colonel Martin Amoudjou-Kodjo pour compléter, mais je tiens à dire que la terminologie exacte que nous utilisons à la fois au niveau des FARDC, au niveau de la MONUSCO, c'est bien des opérations conduites par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO. Il ne s'agit pas d'opérations conjointes. Voilà. Ce qui est dit, il ne s'agit pas seulement des opérations en Ituri, il s'agit des opérations sur l'ensemble du front où nous enregistrons des violations, des droits de l'homme, des violations, des tensions intercommunautaires, des attaques des groupes armés sur l'ensemble du front dans l'est de la RDC. Nous repérerons présents donc aux côtés des FARDC pour les appuyer, les aider, les soutenir dans leur combat contre ces groupes armés. Colonel, je pense que j'ai bien traduit votre pensée.
Oui, merci. Ça, c'est vrai ce que je voulais dire. Et comme toujours, nous militaires, que ce soit à la cause de la MONUSCO ou les FARDC, nous sommes toujours ensemble, nous sommes des militaires, nous comprenons. Nous poursuivons nos opérations, nos activités militaires. Si j'appelle opération, c'est activité militaire. Ce n'est pas dans le cadre de l'accord de reprise de coopération. Comme toujours, nous, on a toujours mené des activités militaires ensemble pour protéger la population civile, que ce soit dans l'Ituri, dans le Nord Kivu, au Sud Kivu, comme dans d'autres provinces. Je voudrais dire par là des activités militaires, pas nécessairement des opérations conjointes comme vous le pensez.
Voilà, on reste à Goma d'ailleurs pour prendre deux questions rapidement. Goma, deux questions s'il vous plaît.
S'il Merci pour la question. Je suis Viviane Zabaringa pour les comptes de la radio télévision Belle de France Info, RTBF, et localement pour les comptes de la radio Moutali FM. En fait, un élu de la ville de Boutembo, vous aurez accusé d'avoir distribué des armes, des machettes et armes blanches aux FDLR pour bien sûr commettre des exécutions sommaires à la communauté Nandé et de la zone en belligérance des Miriki. Qu'en dites-vous?
Je pense que
c'est Charles Bamara. Merci.
Enfin, je crois que vous faites allusion à un sénateur, effectivement, qui sur les ondes de Radio Kivuwan à Goma était intervenu pour justement donner les allégations dont vous faites allusion. Nous voulons dire ceci, de façon très claire et nette, au niveau donc de la MONUSCO, Le commandant indien dont il faisait référence, après vérification auprès du général de la brigade du Nord Kivu, qui est indien et qui connaît ses hommes, nous dit que ce commandant n'existe pas dans ses rangs. C'est clair. Donc, premièrement, le commandant dont il fait référence, qui aurait fait la transaction, n'existe pas. Deuxièmement, le commandant, le général Jean Bayou, que vous connaissez très bien et qui est toujours à Goma et qui est le commandant second de la force de la MONUSCO, est catégorique. La chaîne de commandement de la MONUSCO n'a jamais autorisé récemment ou dans le passé d'ailleurs des achats de machettes. Jamais. Donc c'est clair et net que ces allégations doivent être prouvées. Ensuite, aucun casque bleu n'est autorisé à faire quoi que ce soit en termes de trafic ou de choses. Cela est interdit par les textes onusiens. Nous avons un mandat très clair, c'est de neutraliser l'ensemble des forces négatives dans cette région de l'est de la RDC, y compris les FDLR, y compris les ADF. Comment pouvez-vous dire ou comprendre que nous ayons quelques contacts, je ne sais pas à quel niveau, entre ces gens que nous devons neutraliser? Nous allons les neutraliser, c'est ce que le Conseil de sécurité nous demande. Le commandant de la force de la MONUSCO est très clair dessus. Aucun groupe armé ne sera épargné. Nous allons combattre aux côtés des forces de la RDC, des FRDC, donc, pour anéantir, neutraliser ces groupes armés. Et tant qu'on n'a pas des preuves pour étayer tout cela, je crois qu'il faut se méfier un peu de ce genre d'allégations. Merci. Nous restons à Goma pour d'autres questions, peut-être.
Madame.
Merci, c'est Sylvie Fortuné Moula, envoyé spécial d'Antenne A depuis Goma. Mais je reviens sur le communiqué de l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU que M. Bambara venait de nous dire tout à l'heure. Je remarque que ces partenaires du gouvernement insistent sur la tenue du dialogue et des élections apaisées. En fait, la MONUSCO qui soutient la tenue d'un dialogue en RDC, la MONUSCO qui a soutenu les consultations entamées par Edem Kodjo à Kinshasa, nous le savons tous, une frange de l'opposition ne veut pas de M. Edem Kodjo à Kinshasa. Ils ont dit, ils ont déclaré que ces consultations ne servent absolument à rien. Qu'est-ce que la MONUSCO veut lancer comme message aujourd'hui, après l'application de ces messages de partenaires du gouvernement, à ceux-là qui ne veulent pas de ces dialogues politiques en République démocratique du Congo? Merci.
Nous pensons que la MONUSCO n'a pas de voix plus forte que celle de Ban Ki-moon lui-même, secrétaire général des Nations Unies, qui a très clairement appelé, effectivement, à ce que le dialogue puisse s'engager au niveau des acteurs politiques dans ce pays pour, j'allais dire, paver un peu le chemin vers des élections. Et vous savez que Maman Sidikou, son représentant spécial en RDC, a rendu plusieurs fois visite à la CENI pour interpeller les responsables, notamment le président de la CENI, pour qu'on fasse diligence dans l'avancée réelle vers ce processus électoral. Et nous avons entendu ces derniers temps, effectivement, non seulement le président de la CENI, mais d'autres instances de la CENI, dire que cela se mettait un peu en musique, hein, avec notamment la planification de l'organisation un peu de l'enregistrement des électeurs. Ensuite, il y a aussi, de façon, cette décision avant d'organiser aussi les élections des gouverneurs. Tout cela va dans le bon sens, mais nous voulons, une fois de plus, et c'est ce que le communiqué dit, le communiqué auquel vous faites référence, il y a des délais constitutionnels qu'il faut prendre en compte, bien entendu, et il faut que ce travail en amont puisse aller vite pour que les termes de la Constitution soient respectés. Voilà un peu ce que nous pouvons dire ici. Nous allons revenir peut-être à Kinshasa pour prendre deux questions. Il n'y a toujours pas de mail nouvelle, hein, c'est toujours les mêmes mails que nous avons au fil des semaines. Bon, on va se contenter d'être... Bon, ok, allez-y. Donnez, voilà. Exactement, allez-y.
Pour le compte de Désastre Télévision, j'ai suivi M. José Maria qui vient de dire tout à l'heure qu'il y a 411 cas de violation des droits de l'homme commis en RDC au mois de janvier. Alors, qu'est fait vraiment le Bureau conjoint des Nations Unies pour que les droits de l'homme soient respectés en République démocratique du Congo après avoir publié?
José Maria, c'est une question qui revient tous les mois. Hein?
Oui, tous les mois. Il faut l'expliquer. Ce qu'il y a dans les rapports, c'est un diagnostic de la situation, et c'est ça qu'on a présenté ici. On fait la documentation, on prend toute l'information nécessaire et on la partage avec les autorités et c'est qu'ils ont la responsabilité pour protéger les droits de l'homme à la RDC. C'est pas la responsabilité des Nations Unies, c'est pas la responsabilité de la communauté internationale. On donne l'appui et on fait la vigilance de la sous-mandat pour le faire comme ça. Et sous l'accord du gouvernement pour le faire ça. On partage avec les autorités et on donne l'appui pour faire l'investigation et éradiquer les causes de violation des droits de l'homme, soit par les agents étatiques, soit par les groupes armés.
Nous restons toujours ici pour une autre question. Oui, allez-y.
Laetitia Massé-là pour le compte de la RTNC2. Je vais poser
ma question. Ça fait deux questions de la RTNC2, là.
C'est pas grave. Je vais poser ma question à, s'il y a quelqu'un de l'OMS ici. Oui, l'environnement sanitaire reste en alerte avec l'apparition du virus Zika au Brésil. Ici, en RDC, que prépare l'OMS pour parer à l'arrivée de ces virus? Merci.
Est-ce qu'on attend parler de l'arrivée prochaine, enfin, de ce virus-là ici dans la région?
Je sais que l'OMS est en veille constante, qu'ils ont, j'ai vu passer des communiqués qui ont été diffusés pour information sur les symptômes, mais pour l'instant ici, il y a encore aucun cas avéré et l'épidémie ne concerne pas encore la RDC. Mais évidemment, l'OMS, qui tous les mois fait des rapports de situation sur la situation sanitaire en RDC, suit ça de très près.
Beaucoup de mails ici à Kinshasa, nous restons donc à Kinshasa. J'ai pas le micro moi, donc je peux pas... Bon, il y a une mail insistante ici, voilà, ensuite on va passer là avant d'aller à Goma, voilà. Présentez-vous.
Merci, Kérima est à l'agence Comores de Presse. Je voulais poser une petite question.
Est-ce qu'il y a des petites questions vraiment?
Oui. Pourquoi dans la visite, lors de sa visite à l'Est, le représentant spécial du secrétaire général n'a pris que l'envoyé du Vatican au lieu d'avoir, par exemple, une délégation des religieux ou je ne sais pas pourquoi l'Église catholique seulement. Et je voudrais encore poser une petite question à Aranas. Juste, qu'est-ce que vous entendez réellement par violation des droits de l'homme? Parce qu'il faut que vous expliquiez ça aux gens. Qu'est-ce qu'on entend par violation des droits de l'homme? J'ai l'impression que la définition n'est pas bien comprise. Merci.
Le voyage du représentant spécial à l'Est avec Monseigneur Montemayor n'est qu'une première étape. Il faut dire qu'ici à Kinshasa, il rencontre toutes les communautés. Hein. Il a rencontré la communauté protestante récemment. Il a rencontré aussi, je crois, la communauté musulmane. Et il va faire des voyages avec les uns et les autres au regard de leur disponibilité. C'est un travail de longue haleine qui commence, c'est vrai, cette semaine. semaines avec ce programme, avec le nonce apostolique. Mais au fil des semaines, je suis sûr qu'il n'est pas son premier voyage à l'Est. Il repartira avec les autres communautés, si besoin est, pour, une fois de plus, comme on l'a dit, montrer un peu de la compassion, de la solidarité, mais aussi de la consolation envers ces populations meurtries par les violences des groupes armés dans l'est du pays. Notamment, ils vont visiter Kichanga, donc toute cette zone de la province du Nord Kivu. On a enregistré ces dernières semaines encore plusieurs violations des droits de l'homme. Ce n'est que le début d'un long processus de voyage que lui-même va programmer, et on vous tiendra au courant. Nous prenons une question. Oui, il y avait une question sur les...
Sur les concepts des violations des droits de l'homme. Je pense que le problème, ce n'est pas qu'il n'y en a pas la compréhension de ce qu'est une violation des droits de l'homme. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs interprétations de ce qu'est une violation des droits de l'homme. Et je peux vous assurer que notre méthodologie de travail, c'est la méthodologie standard de toutes les missions et toutes les représentations de l'haut commissaire des droits de l'homme par tout le monde. Ça, c'est la première chose. Les standards de vérification et d'investigation, c'est les mêmes. Alors, de notre côté, l'interprétation, c'est standard, c'est clair, c'est uniforme, c'est universel. Quelle est notre interprétation de violation des droits de l'homme? Ça fait référence aux droits, droits et libertés consacrés à la Constitution congolaise et au traité des droits de l'homme qui ont été ratifiés par la RDC. Et ce sont les actes commis par les individus, par les institutions, par les agents étatiques, par les individus privés ou les groupes armés qui sont contraires à ces droits et ces libertés qu'ils sont consacrés dans la Constitution qui est en conformité avec le traité international des droits de l'homme.
Merci. Une question ici avant Goma.
Ok, merci Monsieur Charles, malgré le long temps que vous ne voudrez pas m'accorder la question. Bon, en rapport avec le communiqué conjoint, c'était au don d'un de le compte de Télé7, les communiqués conjoints des quatre organisations. Pourquoi ces quatre organisations ont attendu seulement la date du 16 février pour publier leur communiqué conjoint? Voilà.
Il faut dire simplement que pour travailler déjà entre deux organisations, c'est pas facile. Pour travailler entre quatre, c'est encore plus difficile. Et pour harmoniser les messages, c'est, je crois, un concours de circonstances qui fait que ça tombe vraiment ce 16 février. Car vous savez que l'Union africaine a son siège à Addis Abeba, l'Union européenne à Bruxelles, ensuite la francophonie à Paris, les Nations Unies à New York. Il faut vraiment faire circuler le document. C'est pas un document qu'on a préparé seulement hier, c'est un document qui a été préparé depuis de longs jours, de longues semaines, et qui était finalement prêt en ce jour, et on l'a publié ce jour-là, et puis voilà. Et donc, c'est un signal fort, je crois, à l'endroit des acteurs politiques de ce pays pour leur dire la communauté internationale est prête à soutenir ce processus, mais il faut qu'il y ait une cohésion politique à l'interne, il faut que vous-même, au niveau de la nation congolaise, on puisse s'entendre sur le minimum afin d'avoir ce soutien de la communauté internationale qui fait front, qui fait face, donc qui se dit nous sommes prêts, nous vous attendons, faites-nous signe dès que tout cela est mis en ordre pour que nous mettions en musique donc l'appui promis par la communauté internationale pour aider à ce processus politique donc en RDC. Nous repartons donc à Goma pour prendre deux questions, et je vois qu'il nous reste 5 minutes avant le décrochage avec Radio Capi, mais nous avons la place pour 2 questions, je crois. Goma.
Madame. Oui, merci, c'est Gina Mouva pour le compte de Citizen. Ma question, je vais l'adresser à Madame Marshall. Vous avez tantôt, dans votre exposé, parlé du PAM qui faisait des distributions de nourriture vulnérable au Nord Kivu. Je voudrais, si possible, revenir sur le cas particulier des déplacés de Miriki, qui, selon nos informations, du moins jusque à la semaine dernière, il se plaignait d'un accès difficile, aussi bien aux soins de santé qu'à la nourriture, justement.
Ok, je vous remercie. Je vais passer la parole à Claude Kalinga du PAM qui est présent dans cette salle.
Claude, rapidement, on peut avoir en deux mots quelques éléments de réponse.
L'assistance que le PAM fournit à partir d'aujourd'hui à ces vulnérables dans cette partie de l'Oubéro n'est pas la toute première. En fait, c'est la seconde parce que la première date d'il y a quelques semaines et le PAM est intervenu pour apporter une assistance alimentaire d'urgence en termes de biscuits énergétiques. Donc, à plus environ 50 000 personnes. Donc, celle-ci, c'est la deuxième assistance qui commence, donc pour quelques jours. Donc, le PAM est là et au quotidien pour assister ces personnes vulnérables. Voilà.
Merci. Nous restons à Goma pour une autre question.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Kaimert. J'ai une question à Charles. Le communiqué de la communauté internationale n'a dit rien de fondamentalement nouveau, c'est des choses que nous connaissons par cœur. Soutien conditionné au dialogue, au respect des prescrits légaux, mais dans la classe politique, la crispation, Charles, est ambiante. À l'opposition, une certaine opposition ne veut pas de ce dialogue. La console le disait tout à l'heure. À la CENI, notre technique qui a fuité ne fait pas croire qu'il y aura élection d'ici fin décembre. Vous ne trouvez pas que les indices sont réunis pour un choc frontal?
Nous, ce que nous pouvons dire au niveau de la communauté internationale, c'est que cette communauté internationale parle d'une voix quand il s'agit de la RDC, surtout par rapport au processus politique qui est en cours. Le message est clair, il faut avancer de façon irréversible vers les prochaines échéances électorales prévues par la Constitution elle-même. Il y a des difficultés, certes, il faut les aplanir. Les quatre organisations demandent effectivement, ou encouragent en tout cas, soutiennent l'idée de ce dialogue au niveau de la classe politique pour déblayer un peu le chemin allant vers ces élections. Je crois que tout cela encourage les uns et les autres à revoir un peu leur position, à se dire c'est une chance que nous devons saisir pour essayer de faire entendre notre voix dans ce débat politique afin de marcher vers ces élections qui vont se tenir tôt ou tard, mais nous pensons, nous, au niveau de la communauté internationale, que les délais constitutionnels, une fois de plus, devraient pouvoir être respectés si tout cela se met en musique rapidement.